Nous allons ouvrir la parole du Seigneur sur un très beau texte, à mon avis. Enfin, tous les textes sont beaux, bien sûr. Mais celui-ci est tout à fait approprié, à mon humble avis, pour la circonstance. Et nous sommes dans un texte que nous avons déjà vu. Nous allons le revisiter. Nous sommes dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24. Alors, pour plusieurs, vous savez déjà de quoi ça aura cours, hein? Luc, chapitre 24, nous lirons les versets 13 à 35. Pardon. 24, c'est bien après 23, hein, oui? Voilà. Parole du Seigneur, donc. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à une ville nommée Emmaüs, éloignée de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » ?»« Quoi ? » leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Alors, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui... ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils retrouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Amen. C'est un texte qui parle de lui-même, hein, mais qui en dit tellement long. Nous en sommes ici, mine de rien, devant la première de 11 apparitions du Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. C'est la première. Et à mon humble avis, c'est la plus fascinante, la plus interpellante en lien avec notre propre vécu, à nous qui sommes en quelque part à l'occasion aussi des disciples d'Emmaüs. L'un des éléments frappants de ce récit-là, c'est de voir le surnaturel. C'est surnaturel ce qui se produit sur cette route-là. Le surnaturel, en tout mystère et en toute majesté, marcher et parler littéralement dans le naturel. C'est pas une voix qui est venue du ciel, il n'y a rien eu d'extraordinaire autour, il n'y a pas eu de coup de tonnerre ou d'éclair. Une simple marche sur une simple route où Jésus faisait chemin avec eux. Et ça nous dit que la marche avec le Christ s'opère de cette façon-là. La marche avec le Christ s'opère de cette manière-là dans notre train-train quotidien. Sur la route banale de nos vies ou sur la route de nos vies qui semble parfois tellement banale. On n'a pas à être constamment à la recherche de miracles, de spectaculaires, de tape à l'œil. Mais, comme nous le rappelle si bien, Michée chapitre 6, verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Pratiquer la justice, c'est obéir à Dieu. Pratiquer la miséricorde, c'est la deuxième table de la loi, c'est notre commerce avec le prochain. Avoir miséricorde, s'entraider, s'entre-soutenir. Ce qui ressort clairement de ce texte, c'est que la chose la plus importante sur terre, c'est la vérité. Et avec, et depuis la chute, c'est l'élément le plus menacé. Rappelons-nous où ça a commencé, l'éclatement de la vérité. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu a parlé à nos premiers parents pour leur dire, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, il manquait pas d'arbres, hein? Cependant, il y en a un duquel vous ne vous approcherez pas. C'était une probation, une simple probation. Un seul arbre sur toute la forêt, sur toute l'armée d'arbres qui était dans le jardin d'Éden. Satan était venu, il dit, Dieu ne vous permet pas de manger de tous les arbres. Sème un doute. D'abord dans la tête de la femme, et le grand garçon, on le sait, a suivi par la suite. Et qu'est-ce qu'elle fait, Ève? Elle commence à réfléchir. Dieu dit ceci, le serpent dit cela. Qui a raison? Bonne question. Oui? Si d'emblée, on ne part pas avec cette réalité que nous sommes image de Dieu, et qu'il est la vérité, et que notre interprétation, ça doit être la réinterprétation de ce qu'il a déjà interprété, on va certainement manquer le bateau. Alors elle se dit, je suis une grande fille, Ève. Je suis une personne rationnelle. Je suis capable de prendre mes décisions. C'est l'humanité qui est en train de parler. Parce que c'est le discours que l'humanité tient depuis. Et elle dit, j'en mange. Et elle en donne également à son mari qui, renonçant complètement à ses responsabilités de mari en homme, en mange lui aussi, de sorte qu'on parle du péché d'Adam, parce que celui qui est responsable là-dedans, c'est Adam. Même si Ève a mangé la première, c'est Adam le responsable. Adam a été créé, l'homme, la femme avait été créée pour lui être soumis, pour être dans la même mission que lui, sous la même mission que lui. Premier éclat, donc, de la vérité, c'est ici. Le deuxième éclat, c'est Pilate. Qu'est-ce qu'il dit, Pilate, à Jésus? Qu'est-ce que la vérité? Hein? On croirait entendre là, les postmodernes français. Hein? Qu'est-ce que l'ancêtre des postmodernistes? Qu'est-ce que la vérité? Chacun fait sa vérité. Oui? La vérité, elle est souvent cachée, elle est souvent triturée. Ou simplement nier, comme c'est le cas encore aujourd'hui. La vérité ne se trouve que dans la parole de Dieu. La parole de Dieu faite chair et la parole de Dieu faite livre. Mon ancien prof de théologie fondamentale à l'Université Laval disait « Dieu ne se révèle pas dans un livre ». Que c'est mal dit! Dieu s'est révélé par le biais des prophètes, de nombreux prophètes. Dieu s'est révélé de tellement de façons, et gloire à son Saint-Nom, que c'est pas resté uniquement de l'oral. Ça a été condensé par écrit pour rester fiable et fixe. Et nous avons encore cette belle révélation-là à laquelle nous avons accès. Nous ne sommes pas des Bartiens qui considèrent la Bible comme un simple témoignage à la parole de Dieu. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle on fait des exégèses, on l'étudie en profondeur, on la réétudie, on la relit et on cherche toutes les subtilités qu'on peut y trouver. Seule une compréhension de la Bible peut nous procurer une connaissance à salut. Je répète cela, tiens. Seule une compréhension de la Bible peut nous procurer une connaissance à salut et nous faire échapper au jugement. Deux éléments extrêmement importants ici, le salut et le jugement. Et les deux font partie, pour ainsi dire, du fondement de ce que nous sommes. Nous serons sauvés ou nous serons perdus, il n'y a personne de neutre. Comme disait Kierkegaard, il n'y a personne sur le bord du terrain. Nous sommes tous sur le terrain et nous sommes partie prenante de ce qui s'y passe. Tout ce qui concerne le salut, la sainteté, la gloire, est contenu dans l'Écriture sainte. C'est dire que le plus grand service qu'on peut rendre à quelqu'un, c'est de lui exposer l'Écriture qui nous révèle le but de Dieu pour l'humanité dans l'histoire et dans l'éternité. Et on n'a pas besoin d'être des super génies pour comprendre l'Écriture, vous savez. Je ne vais pas trop digresser, mais lorsque j'avais 29 ans, ça fait déjà quelques jours, bien sûr, et qu'on m'avait mis un Nouveau Testament dans les mains, et que je disais ça tout seul chez moi à Longueuil, je suis venu à la connaissance du salut tout seul. Et pendant des semaines, je croyais être le seul chrétien sur la planète, parce que je ne savais pas qu'il y en avait d'autres, vous voyez. Mais ça se comprend, l'Écriture sainte. Ce n'est pas une cachette, c'est une révélation, l'Écriture sainte. Donc, Dieu s'y révèle. Et nous avons un chef-d'œuvre d'illustration, donc, de cette réalité ici dans notre texte d'aujourd'hui. Encore une fois, nous verrons trois chemins dans ce texte-là. Premièrement, nous verrons le chemin de l'incompréhension. Deuxièmement, nous verrons le chemin d'une rencontre. Et troisièmement, le chemin du partage. Premièrement, donc, le chemin de l'incompréhension. L'événement prend place, il y a une horloge qui est là, à peu près à ce temps-ci, dans l'après-midi. C'est un dimanche après-midi, à peu près à ce moment-ci. Et c'est le troisième jour après la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Verset 13, et voici ce même jour, deux disciples à être un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Il s'agit donc d'une randonnée approximative de 11 kilomètres. On fait ça à pied, alors on parle à peu près 2 heures, considérant qu'on marche à peu près à 5 kilomètres à l'heure. Déjà, il y a quelque chose de symbolique dans la direction de leur marche. Où s'en vont-ils? Ils quittent Jérusalem, s'en vont à Emmaüs. Ils quittent Jérusalem qui représente typiquement le lieu de toutes les espérances, de tous les espoirs. Rappelons-nous que dans l'Ancien Testament, Jérusalem, c'était, pas seulement l'expression un peu bébête, le Vatican de l'époque, hein? C'est là où vraiment tout était réuni, c'est là vraiment où tout devait se passer. Et c'était le cœur de la religion, en quelque sorte. S'éloigner de Jérusalem, ce lieu de tous les espoirs devenu maintenant le lieu des désillusions. A priori, une expérience très iconoclaste pour eux. Toutes les images qu'ils s'étaient faites venaient d'être détruites, venaient d'être brisées pour ces deux disciples. L'un d'eux nous est rapporté, le nom d'un d'eux nous est rapporté, Cléopas. Tous deux font partie du groupe qui attendait la consolation d'Israël. Vous savez, on attend la consolation d'Israël depuis la chute d'Adam, depuis Genèse 3:15, hein? Depuis que le Seigneur a promis qu'il enverrait un Messie qui écraserait la tête du serpent. Alors, on vit dans cette attente-là que l'agneau viendrait. Et tous les sacrifices de l'Ancien Testament n'étaient que préfiguratifs du sacrifice que l'agneau viendrait accomplir parfaitement une fois pour toutes à la croix. Donc, ils font partie du groupe qui attendait la consolation d'Israël. Tous deux font partie du groupe qui a entendu le témoignage des femmes, comme on l'a lu tantôt, et qui ont aussi vu le tombeau vide, hein? Et qui ont entendu les anges leur dire que Jésus était vivant, mais ils ne les ont pas cru. Mais où donc est Carniore, right? Voilà, après ma leçon. Au verset 14, donc, il nous est rapporté et il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. Ça devait être toute une conversation de nostalgie. Ils sont donc en train de passer en revue les événements de la dernière semaine. D'abord, le début de la semaine, rappelons-nous, l'entrée triomphale de Jésus sur un âne. Un âne, c'est quelque chose, hein? Un âne, c'est le véhicule d'un prophète, c'est pas un guerrier, vous voyez? Alors, il entre à Jérusalem et on l'accueille glorieusement, on jette nos vêtements devant lui. Hosanna! Hein, au nom de celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, il y a l'entrée triomphale. Le mardi, on perd rien au compte, hein? Il fait le nettoyage du temple. Et quel nettoyage! Hein, avec des fouets, renverse les tables des changeurs, bouscule tout le monde. C'est quand même assez étonnant, faut le faire, hein? Mais il y est parvenu, semble-t-il, avec beaucoup de succès. Et ensuite, son arrestation, ensuite les moqueries, le cirque au tribunal, la croix, la mort et la mise au tombeau. Tout cela était tout simplement inimaginable pour eux. C'est de ça qu'ils parlent sur les 11 kilomètres qui les amènent à Emmaüs. Voyez-vous, il n'y avait pas de place pour la mort du Messie dans leur théologie. Donc, pas de place pour la résurrection. Hein? Ils souffraient d'un manque de compréhension des Saintes Écritures. C'est pas qu'ils avaient rejeté l'Écriture, hein? Mais ce n'est pas qu'ils ne la lisaient pas. C'est pas qu'ils négligeaient la fréquentation de la synagogue où l'Écriture était enseignée. C'est simplement qu'ils ne possédaient qu'une compréhension partielle de l'Écriture et c'était pas suffisant. C'est dangereux que de n'avoir qu'une partie de la vérité. Souvent, d'ailleurs, les sectes ont une partie de la vérité et c'est précisément là leur caractère pernicieux. Il y a une partie de la vérité, c'est l'Écriture. Et c'est ici que Jésus entre en scène. Matthieu 11 nous dit qu'il se révèle aux petits. Alors, il entre en scène. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est Jésus dans son corps ressuscité, on est pré-ascension, c'est Jésus dans son corps ressuscité, toujours humain, mais bon, il semble que sa forme soit un peu différente, comme on l'a vu avec Marie de Magdalène qui croyait que c'était le jardinier. Ajoutez à cela qu'il ne s'attendait certainement pas à sa résurrection et qu'il regardait par terre, déprimé, aveuglés par leurs circonstances et par leur interprétation. Et tout cela contribue à les empêcher de le reconnaître. Il se peut aussi remarquer que ce soit une action directe de Dieu. Le texte n'élimine pas cela. Dans Marc, chapitre 16, verset 12, il nous est dit, « Après ça, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. » Bien-aimés, souvent, nos déroutes viennent du fait que nous ne considérons qu'une partie de la vérité. En fait, pas bien souvent. La plupart du temps, nos déroutes viennent du fait qu'on ne considère qu'une partie de la vérité révélée dans l'Écriture sainte. Est-ce qu'il y a dans ma théologie une place pour la croix? Et là, je ne parle pas uniquement de celle du Christ. parle de la mienne aussi. Parce que nous faisons la même route que le Christ. Nous ne sommes pas dans la théologie de la gloire où on est toujours dans des Alléluia, miracle ici, miracle là. Nous sommes des tenants de la théologie de la croix. Prends ta croix et suis-moi. On est bon pour les promesses, mais souvent de fois faible dans les épreuves. Est-ce qu'il y a une place dans ma théologie pour la mort à soi-même? Pour la transformation par le biais de l'épreuve. C'est pas lorsque tout va bien et qu'on roule sur une grande route bien pavée que l'on grandit. C'est lorsque le Seigneur nous amène au désert qu'il parle à notre cœur. Là où il n'y a pas de distraction. Là où on n'est pas en train de courir après ceci et après cela. Mais nos yeux se dirigent vers le haut et c'est là où les transformations s'opèrent. Est-ce qu'il y a place dans ma théologie pour continuer à croire dans l'obscurité ce que le Seigneur m'a montré dans la lumière? Comme disait mon ancien professeur d'hébreu, Dr. Peter Gentry, pour ne pas le nommer. Théologie de la croix ou théologie de la gloire? Luc chapitre 9, verset 23, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » On ne tombe pas dans le misérabilisme ici, là. On n'est pas en train de penser qu'on est constamment en train de porter une croix, en train de s'écraser un peu partout. Mais comme les non-chrétiens, nous avons également nos propres épreuves, sauf que les nôtres ont un sens. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6 nous dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Qu'est-ce qu'ils ont fait les deux disciples? Ils se sont appuyés sur leur sagesse. « Ouais, les femmes ont dit ça. Ouais, les disciples ont dit ça. Ouais, il y avait un ange quelque part dans le coin. » Mais en fait, dans leur analyse, ils en arrivent à dire « Il n'est pas ressuscité. Nos espoirs sont déçus, c'est terminé. Oui? » Est-ce qu'on ne reconnaît pas quelque part notre expérience dans cette situation-là? Dans les circonstances contraires, lorsque les choses ne tombent pas comme on les avait souhaitées ou imaginées, lorsque notre sentier devient plutôt étroit, n'avons-nous pas tendance à nous éloigner de Jérusalem? Ne sommes-nous pas comme ses disciples à nous éloigner ne regardant qu'aux événements, en oubliant les promesses? Et on s'en va avec un discours négatif, dans un écrin d'incompréhension, et on est souvent empêché de le reconnaître parce que tout ce qui nous contrarie, tout ce qui n'est pas conforme à nos désirs. Quand ça ne va pas bien, est-ce qu'on reconnaît Jésus à côté de nous, dans nos circonstances, dans tout ce qui se produit autour? On ne voit plus Jésus. On est comme ses disciples, empêchés de le reconnaître par les circonstances. Donc Jésus, en bon pédagogue, interroge avant d'instruire. Pour être bien écouté, il faut avoir fait parler ou il faut au moins avoir laissé parler. Hein? Acte au verset 17 à 24, nous lisons que Jésus les amène à articuler leur état d'âme. Verset 18. « Et le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé de nos jours, bien sûr que Jésus savait ce qui est arrivé ces jours-ci. S'il y en a un qui savait, c'était bien lui. Il était l'événement. » C'est un peu ironique parce que Jésus était le seul à savoir ce qui était véritablement arrivé. Non seulement physiquement, mais avec toute la dimension spirituelle qui est contenue. Et voilà que Cléopas lui raconte son histoire en termes bien pathétiques, où toutes ses espérances sont au passé, rien pour le présent, rien pour le futur. Frères et sœurs, gloire à Dieu, que l'Évangile que nous professons, que l'Évangile que nous proclamons ne soit pas l'évangile selon Cléopas. Un évangile sans résurrection. Ce n'est plus une bonne nouvelle, hein, comme on le lit si clairement dans 1 Corinthiens 15. C'est la résurrection qui vient confirmer l'acceptation par le Père de la perfection du sacrifice du Fils. Que notre vie manifeste l'évangile du Christ et non celui de Cléopas. Un évangile qui remorque sa culpabilité comme une veuve qui traîne son deuil, ce n'est pas l'évangile du Christ. Un évangile de défaite constante, un évangile misérabiliste, un évangile sans transformation aucune, c'est l'évangile de Cléopas. Ce n'est pas celui du Christ Jésus. Et ça m'amène à mon deuxième point, le chemin de lumière. On ne peut certainement pas passer sous silence le fait que le premier souci du Christ ressuscité a été pour la Bible. Ça devrait être le nôtre aussi, hein? Son premier souci était pour la Bible. Il ne leur dit pas, ben voyons les gars, c'est moi! Regardez-moi comme faux, c'est Jésus! Posez-moi des questions, vous le dis, c'est moi, je suis ressuscité! Oui? C'est pas du tout ce qu'il veut faire. Il ne veut pas faire affaire avec leurs émotions premièrement, avec leurs sentiments premièrement. C'est pas comme ça que Dieu se révèle dans nos vies. Il ne faut pas appel à leur sens, mais à la parole de Dieu, l'autorité suprême. Plutôt que de pointer vers son corps ressuscité, Jésus pointe le regard vers l'Écriture qui, elle, pointe vers lui. Parce qu'il est le sujet de l'Écriture. Une véritable rencontre avec le Christ se fait autour de la parole de Dieu. On peut avoir de belles rencontres, on peut avoir du plaisir, on peut même avoir du fun, comme on dit souvent. Mais s'il n'y a pas de parole de Dieu, hein, bon, c'est important que la parole de Dieu soit là. Une rencontre avec le Christ se fait autour de sa parole, bien sûr. La seule façon de compenser, de corriger le manque de compréhension de ces deux disciples-là, c'était donc par une exposition de l'Écriture sainte. Verset 25-26, alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Ne fallait-il pas? » Il y a un « fallait » ici. Qu'est-ce que ça nous dit « il fallait » Ça veut dire qu'il fallait. C'est un incontournable, c'est un non négociable, c'est un impératif, ça fait partie du tout. Il fallait que ça se produise. Il fallait qu'il passe par là. La mission incontournable du Messie. 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Il est vivant, puis il va revenir. Hein? On sait que c'est le dernier élément au calendrier du salut, il revient. Et il nous a dit qu'il revient bientôt. Bon. Donc, après un reproche gentil quant à leur lenteur à croire, une lenteur qu'il qualifie un peu de folie, un peu de péché en même temps, hein, le verset 27 nous dit, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Le verbe « dire menuo ». Matthieu. Le verbe « dire menuo » qui a donné herméneutique. Hein? Alors, le verbe, il leur expliqua littéralement, il est allé en herméneutique, puis il leur expliquait à partir de l'Ancien Testament tout ce qui le concernait, voyez-vous. Le Nouveau Testament, c'est pas quelque chose de neuf, puis l'Ancien Testament, c'est pas quelque chose de vieux. C'est la révélation de Dieu et elle est tout à fait unifiée. Alors, herméneutique veut dire interpréter, expliquer, et c'est ce que Jésus fait ici. Le Seigneur nous donne la clé pour la compréhension de tous les récits de l'Ancien Testament. C'est lui qui en est le sujet. Quand je lis l'Ancien Testament, qu'est-ce que je dois comprendre dedans? Je cherche le Christ. Chaque partie de l'Ancien Testament trouve sa signification et son but en relation avec la personne et l'œuvre du Christ. On peut adéquatement comprendre tout ce qu'ont écrit les auteurs de l'Ancien Testament, depuis Moïse jusqu'à Malachie, à moins d'en voir la connexion avec l'Évangile, incluant bien sûr la croix et le tombeau. Comme l'exprimait si bien saint Augustin, qui nous est si cher, le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien, et l'Ancien est révélé dans le Nouveau. Permettez-moi un survol rapide de ce que Moïse et les prophètes enseignent quant à Jésus. Bon, on pense à Genèse 3,15, dont on a fait mention tantôt là. Dieu de dire au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Parle de qui? Parle de Jésus. Qui d'autre pourrait venir écraser la tête du serpent? Sûrement pas un ange, sûrement pas un curé, sûrement pas un pasteur, sûrement pas un bonhomme, aussi gentil qu'il soit. Ça prend une puissance plus grande que lui, et ça prend une puissance infiniment sainte et pure. Et c'est du Christ, donc, dont il est question ici. Un homme en chair et en os, en même temps, postérité de la femme. Quel génie divin! Jésus qui vient s'incarner comme cela, hein? Dieu qui vient s'incarner en Christ Jésus, un homme comme nous, chair et os, mais sans la tâche d'Adam, et qui vient mourir à notre place, puis qui vient porter notre abandon. Élie, la mort Sabachthani. Qui vient porter notre abandon afin que nous on ne soyons jamais abandonnés. Exode chapitre 12, verset 13 nous dit: Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alors, c'est la Pâque en Égypte. On se souvient comment ça s'est produit, hein? On met le sang sur les linteaux de porte, ça ressemble à une, drôlement une croix, et c'est comme ça que quand l'ange passe, le mot « passera » veut dire ça, il passe par-dessus. C'est ce que veut dire le mot Pâques, et ce n'était que préfiguratif de ce que nous célébrons aujourd'hui. Lévitique, chapitre 16, versets 14 à 16. Il prendra du sang du taureau, il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple. Il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. On pourrait parler très, très longuement sur ce verset-là, mais déjà le mot propitiatoire nous en dit long. Ça assurait la propitiation. Ça rendait aux misérables pécheurs d'Israël, la raison de leur péché séparé de Dieu, ça leur rendait Dieu propice. Et ce n'était que préfiguratif. Hébreux va nous dire que le sang des agneaux et des taureaux ne peut purifier la conscience. Il fallait vraiment le sang du Christ Jésus, le sang de l'agneau sans tache, vous voyez. Nombre 21, verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Une perche, serpent d'airain, là, qui nous rappelle effectivement, tout simplement, purement et simplement, le Christ en croix. Et tous ceux qui regardaient étaient guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes sozo. Le mot traduit par guéri, c'est le mot sauvé, c'est le mot sozo. On est guéri tout entier, hein? Pas uniquement physiquement, l'âme et tout, tout, tout. C'est par ces meurtrissures qu'on est guéri. Deutéronome chapitre 27, 1 à 26 nous enseigne que le pécheur, sous la malédiction conséquente à la transgression de l'Alliance pouvait trouver grâce dans l'aspersion du sang, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et toutes ces vérités trouvent leur plein accomplissement en Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde en répandant son sang en croix. Galates chapitre 3, verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Voilà donc en rafale ce qu'enseigne Moïse dans l'Ancien Testament. Allons maintenant au prophète, si vous voulez, brièvement encore une fois. Ésaïe chapitre 53, verset 5 nous dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Qui d'autre que le Christ est ici mentionné? Nous avons sa photo claire et nette en couleur. C'est le Christ Jésus qui nous est décrit ici. Jérémie, Zacharie 3:9, Daniel chapitre 7, versets 13 à 14, et il en est ainsi pour le reste de l'Ancien Testament. Le psaume 22, verset 2, et les versets 8-9, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête, recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » Et ce ne sont que quelques exemples. On aurait pu encore parler du principe de rachat avec Ruth et Boaz. On aurait pu parler du signe de Jonas et de combien d'autres éléments encore. La Bible nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Pas un livre de religion, c'est le livre de la révélation du Christ qui vient sauver les pécheurs, qui se confient en lui par la foi. Rappelons-nous, bien-aimés, que les premiers chrétiens n'avaient pas le Nouveau Testament. Quand ils évangélisaient, ils ne disaient pas, ben, « Je vais te citer Jean 3,16. » Il n'y avait pas encore eu Jean 3,16, vous voyez? Mais ils faisaient appel donc à l'Ancien Testament, dont le sujet est Jésus et sa personne et son œuvre. Rappelons-nous Philippe avec l'Éthiopien. Dans Acte 8, versets 30 à 35, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait la prophétie d'Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. » Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Quel est un autre mot pour bonne nouvelle? Évangile. Évangile. Il lui annonça l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Sans lui parler de Jean 3,16. Gloire à Dieu, on a Jean 3,16. Mais Jésus est tout à fait omniprésent dans l'Ancien Testament. La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, elle est christocentrique, centrée sur le Christ. Le chemin de la lumière, c'est l'Écriture sainte qui nous révèle le Christ Jésus. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Sinon, on s'en va, tâtons, dans les ténèbres. Et on pense qu'on voit, hein, avec nos intelligences tellement limitées, en plus, entachées par le péché. Et on blâme. Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet ça? En plus, on blâme Dieu, hein, pour les histoires qui nous arrivent. Ça nous amène au troisième chemin. Le chemin du partage. Alors là, Letéia, nous sommes dans le chemin du partage. Hein? Elle m'a regardé, elle a compris son nom, tu vois. Verset 28-29. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. » Pourquoi est-ce qu'ils insistent pour qu'il reste? Ils viennent de faire un bon bout de chemin avec, hein? Ils veulent qu'il reste. La question de l'hospitalité ne joue ici qu'un rôle extrêmement secondaire. La véritable raison, c'est leur désir d'en entendre davantage. La soif de la parole. Une parole rafraîchissante, une parole restauratrice avec un goût constant de « revenez-y ». Verset 29-32, il entra pour rester avec eux, et pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux, et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait l'Écriture? » Ma prière pour vous et pour moi, c'est que lorsqu'on entend l'Écriture, notre cœur brûle dedans de nous. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Il y a l'Esprit du Seigneur qui habite les croyants, qui vient agir à l'intérieur. Bon, et ça va au-delà de nos humeurs, des mauvaises journées ou des bonnes journées, mais la parole de Dieu vient nous chercher, parce que seul le Créateur sait si bien parler à sa créature. Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. On se croirait chez Matthieu et Luciana vendredi dernier. Ils étaient tous ensemble se réjouissant et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. » Voilà qu'ils l'ont reconnu. J'ai presque envie de dire voilà qu'ils l'ont expérimenté. On dénonce souvent ceux et celles qui mettent trop d'emphase sur les émotions. Oh, ça se peut qu'on mette trop d'emphase parfois sur les émotions. Mais une chose est certaine, on ne peut expérimenter le Christ sans que nos émotions, quelque part, entrent en jeu. On ne peut naître de nouveau et demeurer complètement stoïque et désinvolte. Notre cœur ne peut continuer à baigner dans l'indifférence si Christ est réel à mon cœur, il va susciter une passion en moi. Christ, par ce moyen, se révèle à eux. Je trouve particulièrement intéressant dans ce texte-là, parce qu'on parle souvent des moyens de grâce, hein? Ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce texte-là, c'est que nous avons ici deux moyens de grâce utilisés par le Christ pour bénir ses disciples-là. Premièrement, nous avons sa parole. Il leur a fait l'herméneutique, il leur a exposé, expliqué que la parole parle de lui. C'est comme ça qu'on vient au Christ, en lisant sa parole. Et deuxièmement, les sacrements. Il a rompu le pain avec eux. Et c'est là où leurs yeux se sont ouverts et où ils l'ont reconnu. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Comme on trouve notre expérience chrétienne dans une expérience aussi banale que celle de deux disciples d'Emmaüs en dépression. Puissent nos cœurs brûler de joie et d'amour pour notre Seigneur et Sauveur. Les années passent, vous savez. Et quand les années passent, les relations changent un peu, s'approfondissent. N'ont pas la même forme qu'au début. Heureusement, d'ailleurs, quand on tombe en amour, si on reste en amour comme quand on tombe en amour, on ne pourrait jamais travailler. Hein, on serait constamment en train de courir l'un après l'autre. Mais le Seigneur fait en sorte qu'on s'aime tout autant, mais ça prend une autre forme de sorte qu'on demeure fonctionnel. Mais que nos cœurs continuent à brûler pour notre Sauveur et Seigneur. Les disciples reprennent la route. Un U-turn, un virage en U. C'est pratique. On ne dirait pas une conversion parce qu'ils croyaient déjà, mais tout comme, hein, ils font un demi-tour, c'est fini la fuite. Au verset 33, ils s'en vont à Jérusalem, le lieu de toutes les espérances. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui, en ce 5 avril. La parole est tantôt la fraction du pain. Mais je suis perdu. Voilà, fini la fuite, fini la tentation d'oublier. Tout s'est éclairé. Le lieu de la désillusion redevient leur espoir, mais un espoir purifié, transformé. Et c'est une belle manifestation de retour au Christ. Alors, on partage avec les 11, et là, on se conforte dans cette espérance-là, dans cette certitude-là que le Christ est ressuscité. Désormais, il devient clair que le Christ est ressuscité. Verset 34, non seulement grâce à la certitude du tombeau vide, mais dans la mise en commun des témoignages de ceux qui l'ont rencontré. Est-ce qu'on est en faveur des témoignages?
Oui.
Amen. C'est bénissant des témoignages. Dans la mesure où on ne beurre pas trop épais pour la galerie, là, hein, parce que des fois on veut embellir encore, on veut tellement aider le Seigneur, mais on dit des choses comme le Christ l'a fait, et c'est tellement réconfortant les témoignages d'autrui. Hey, je voudrais vivre ça moi aussi. Donnez-moi une parole de Dieu que je la lise à mon tour. Le partage ne consiste pas en une série d'expériences, comme je disais, qu'on raconte en les embellissant un peu. C'est notre tendance. On voudrait toujours avoir un petit Jésus en habit exécutif marine, puis une cravate rouge dans le cou, hein, et que, tu sais, on a des images, hein, du Seigneur, comment il se manifeste, comment il doit être, c'est pas comme ça. Rappelons-nous Gédéon. Juges, chapitre 6, versets 11 à 13. Puis l'ange de l'Éternel, c'est qui ça, l'ange de l'Éternel? C'est Jésus en préincarnation. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sur le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros! » Bon, Gédéon n'est pas en train de partir en louange, en criant des Alléluia, au contraire. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges? » Les prodiges, voilà. « Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir hors d'Égypte? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Il aurait pu continuer à marcher, lui, avec les disciples d'Emmaüs. Il avait le même discours. Nos espoirs sont morts. Un espoir ou un espoir? Nos espoirs sont morts. La rencontre authentique avec le Christ se vit au contraire dans le train-train quotidien. Quand on se lève le matin, puis on a un peu mal au dos, puis que ça craque, puis on se décolle les yeux, puis bon, etc. Certains mettent leurs dents. En tout cas, on peut aller assez loin avec ces choses-là. C'est comme ça que se vit notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. On doit apprendre à décloisonner nos vies. On doit voir le majestueux dans l'apparente banalité du cours de nos vies. Pour ce faire, il faut une rencontre authentique avec le ressuscité. Et c'est le passage de la religion à la relation. Je disais encore hier, ah, les jeunes retournent à l'église à cause de TikTok, parce que j'avais lu la nouvelle, et d'autres que, bon, etc., ils TikTok ensemble. Mais on se réjouit jusqu'à un certain point qu'il y a une recherche de spiritualité. Mais la religion, c'est vil. C'est la relation qui importe avec le Christ Jésus. La religion ne se veut, s'il était pour exister, qu'un véhicule de communion avec le Christ Jésus. Mais la relation première doit s'incruster d'abord solidement dans nos cœurs et avec lui. Sans cette relation-là, Jésus demeure uniquement le Christ du sanctuaire. Ces cérémonies religieuses de la tradition des beaux discours. Quand j'étais petit, Ma famille était une famille, mon papa et ma maman étaient il n'y avait pas autre chose au Québec, hein. C'était le nationalisme chrétien, c'était la théonomie pure, hein, à l'époque, au Québec. Mon papa et ma maman étaient chrétiens. Et mon papa était très zélé pour aller à l'église. Et je me souviens, quand il revenait de l'église, il s'appelait Charles-Édouard. Ma maman l'appelait Édouard, c'était plus court. Et quand il revenait de l'église, elle disait, « Puis, Édouard! » Il dit, « Et que c'était beau! » Et c'est beau! La religion, ça peut être beau! Mais ça laisse ton âme morte. Ça laisse ton âme et ton cœur en décomposition. Il faut une relation avec le Christ. C'est lui qui donne la vie parce qu'il est vivant, il est ressuscité. Puisse le Seigneur, dans nos périodes de découragement, ouvrir nos yeux, dessiller nos yeux. Dans nos périodes troubles, ouvrir nos esprits. Et dans nos périodes de joie, ouvrir nos lèvres. Tout le message de ce passage est mis en capsule au verset 32. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas dedans de nous ?» lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Amen. La triple expérience de Pâques, le Christ accompagnateur, le Christ expositeur, le Christ embrasant. Le Christ accompagnateur, il nous parle en chemin. Il nous parle de nos circonstances. Dans nos circonstances, on vit toutes sortes d'expériences qu'on peut interpréter par la parole de Dieu, le principe d'analogie. On pense les pensées de Dieu après lui. On réinterprète ce que Dieu a déjà interprété. Alors, on n'a pas à se casser la tête pour inventer toutes sortes d'interprétations. Le Christ nous parle vraiment en chemin. Il est avec moi à l'église, il est avec moi en réunion de prière, aux pratiques de la musique, aux rencontres d'hommes, de femmes, dans nos repas communautaires, etc. Il est avec moi sur la route, dans ma maladie, dans le processus de bâtir ma famille. Il est avec moi quand ma bien-aimée ou mon bien-aimé m'abandonne. C'est le Christ accompagnateur. Il est avec moi dans mon social, dans ma perte d'emploi, dans mes revers financiers. Il est avec moi dans mes difficultés avec un enfant rebelle. C'est le Christ accompagnateur. Il est toujours là. Il n'est jamais absent de nos vies lorsqu'on marche avec lui. Il est le Christ expositeur. Il nous explique les Écritures. Une véritable communion avec le Christ ne se fait pas par le biais d'expériences mystiques, aussi spectaculaires soient-elles, mais par l'Écriture sainte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'expériences mystiques. On les renie pas. Elles ont leur place, mais jamais, jamais avant l'Écriture sainte. Avons-nous besoin des pseudo-lumières de la religion sclérosée? Ou des psys de quelque sorte, ou d'autres prophètes d'un monde obscur. Psaume 36, 10 nous dit, « Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Une église, une vie chrétienne ne sera jamais conquérante sans revenir à cette passion pour l'Écriture. Et troisièmement, le Christ qui nous enflamme, le Christ embrasant. Il embrase nos cœurs. Encore ici, toute la différence entre une religion froide et une relation chaleureuse. Réchauffons-nous nos cœurs au quotidien par une rencontre avec le ressuscité dans sa parole. À quel point c'est important d'avoir nos méditations quotidiennes. On est plein d'activités. Le monde ne cesse de nous interpeller. Satan est très subtil. T'as ça à faire, t'as pas le temps, t'es en retard. On est toujours en retard quelque part. Choisir, comme on dit si souvent, mettre les choses les plus importantes en premier. Alors, réchauffez nos cœurs par une rencontre avec le ressuscité dans sa parole. La parole éclairée par l'Esprit. La prière, verset 27, pour qu'il nous explique lui-même les Écritures. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Comprendre veut dire saisir le message, saisir son application dans ma vie. C'est pas une simple compréhension intellectuelle, on ferme le livre, c'était beau et on passe à autre chose. Non, hein? Calvin disait, la tribune, la chair, c'est le trône d'où Dieu dirige nos vies. C'est par la prédication et l'enseignement de la parole que nos vies sont dirigées. Puisse notre Dieu remplir nos chairs de prédicateurs au cœur brûlant. Et puisse-t-il remplir nos bancs de croyants au cœur brûlant. Amen. Notre bon Père Céleste, notre Dieu, on est tellement à court de rhétorique pour t'exprimer notre reconnaissance pour ta révélation, pour cette bonne parole qui, comme on le dit si souvent, vient mettre les pendules à l'heure. Les circonstances nous font tellement souvent de fois déraper, dévier dans l'interprétation qu'on leur donne, alors que ta parole nous garde sur le sentier de la vérité. Et c'est la vérité qui importe, c'est la vérité qui va perdurer. Le mensonge va être détruit avec le jugement. La vérité va perdurer. On te bénit pour ta parole véritable, pour le Christ qui est vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nous disait le Seigneur Jésus, et il l'est réellement. Que tu puisses bénir ces quelques propos qu'on vient de tâter en surface ce matin. Seigneur, nous avons des visiteurs parmi nous, nous avons des gens qui sont là régulièrement, on ne connaît pas les cœurs, toi tu les connais. Ma prière est que tu puisses œuvrer dans ces cœurs-là. Ma prière est que tu puisses amener une espèce de brûlement spirituel dans ces âmes, à l'écoute de ces propos de ta parole que nous avons lus ce matin. Et que tu amènes ces gens-là à se repentir. Se repentir veut simplement dire changer de manière de penser. Commencer à penser comme ta parole pense. Je te prie pour ces gens-là. Je te prie de faire une œuvre à salut. Il n'y a pas d'autre sauveur que toi, ô notre Dieu. Je te prie de continuer d'accompagner, de continuer de tenir et d'approfondir ce qui a été entendu dans leur cœur. Et Seigneur, si quelqu'un, quelqu'une a quelque désir de partager, d'échanger, de poser quelques questions, nous sommes certainement très disponibles pour en parler, ô Dieu. Parce que c'est ce que tu as fait avec nous lorsque nous sommes venus à toi et qu'on comprenait certaines choses, il y avait encore des obscurités, on te remercie de ce qu'on a pu voir, des chrétiens beaucoup plus affermis, beaucoup plus expérimentés qui nous ont aidés, qui nous ont conduits et qui nous ont amenés à ta pleine lumière dans la personne du Christ Jésus. Amen.